France Info.
Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour.
Alexis Tsipras a finalement accepté la plupart des exigences des créanciers qu'il avait refusées jusque-là et qui avaient motivé le référendum de dimanche dernier. Alors, selon vous, boule de cristal, la Grèce est sauvée ?
Écoutez, ça, on verra dimanche. Comme ça a été dit à l'instant, il faut que le Parlement grec se prononce, il faut que la discussion reprenne. Il y a encore deux, trois étapes, mais oui, c'est une bonne nouvelle que les propositions aient été mises sur la table et que ce soit de vraies contreparties. Moi, je l'ai dit, je le redis, je souhaite vraiment qu'une solution soit trouvée, que la Grèce puisse rester dans l'euro, mais pour ça, il faut qu'il y ait des vraies contreparties aux efforts qui sont demandés aux Européens. Voilà, la solidarité, ça marche de conserve avec la responsabilité. C'est la solidarité des Européens et la responsabilité des Grecs. L'Union Européenne, ça doit être un espace dans lequel on met en œuvre de la réciprocité. Chacun fait des efforts. C'est important par principe. C'est important aussi à l'égard de tous les peuples qui, eux aussi, ont fait des efforts. Je pense aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, aux Lettons. On parle jamais des Baltes. Faut pas qu'on soit dans un système dans lequel celui qui gueule le plus fort a gain de cause surtout. Donc, qui est
ça marche pas comme ça.
Qui est des efforts des deux côtés. Faut pas que ça marche comme ça. Faut pas que la Grèce devienne, c'est un peu lapidaire dit comme ça, mais que la Grèce devienne la CGT de l'Europe. Je pense aux Lettons. Les Lettons, ils ont un SMIC aujourd'hui qui est à 600 euros par mois. Les Grecs, c'est à 800 euros par mois. Si on faisait un nouveau geste en direction de la Grèce sans contrepartie, penseraient quoi les Lettons ? Et puis de toute façon, il faut se poser la question de l'étape suivante. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que la Grèce se reconstruise, mais qu'il se fasse des choses dans la durée. Si c'est juste un chèque, et en novembre, il y a quoi ? Il y a un autre chèque. Donc je trouve que ça avance, ça a l'air d'avancer plutôt dans la bonne direction.
Oui.
Malheureusement, pas tellement grâce à la France, mais ça a l'air d'avancer plutôt dans la bonne direction, c'est une bonne chose.
On va venir. Vous dites que la Grèce ne doit pas être la CGT de l'Europe. Vous avez l'impression que M. Tsipras a reculé au fond, qu'il a promis certaines choses et qu'il en accepte d'autres de l'autre côté ?
Écoutez, moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette bataille-là. Je vois bien ce matin, maintenant, il a déposé une proposition sur la table qui, en fait, reprend pour beaucoup
notamment
les éléments
sur la TVA,
les éléments qui lui étaient demandés avant même le référendum.
Ans.
Non, mais je sais bien, il y en a qui diront, il dépose des propositions qui sont celles contre lesquelles il a fait faire un référendum. Je vois bien qu'on peut argumenter ça. Moi, j'ai pas tellement envie d'entrer là-dedans.
Pourquoi ?
Parce que je trouve qu'il faut respecter les uns et les autres dans le cadre de cette négociation, éviter de pointer du doigt derrière Tsipras, qui est quelqu'un d'assez impossible manifestement. Il y a quand même tout un peuple qui cherche à s'en sortir, qui a déjà fait des efforts. On n'est pas là pour chercher à pointer les petites responsabilités, on est là pour chercher à mettre en œuvre des grandes responsabilités.
Parce que ces derniers temps, les Républicains, du moins Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, ont sonné un peu la charge contre Tsipras, mais également contre le pendant, hein, Podemos, Iglesias en Espagne. Ce serait l'extrême gauche qui mettrait la main sur une partie de l'Europe, c'est ça l'idée ? Vous êtes en croisade contre l'extrême gauche ?
Tsipras n'a pas forcément beaucoup aidé, hein, parce que ça fait des mois que des solutions étaient recherchées. C'est vrai que par son style, sa manière, celle de son ministre des Finances, son côté provocateur, il n'a pas toujours aidé. Mais enfin, moi, j'ai pas tellement envie de rentrer là-dedans. Ce qui est important, c'est qu'on trouve des solutions. Sur la question de ce qui se passe en Europe, il y a une chose qui m'interroge beaucoup, je trouve, dont on parle trop peu, qui doit nous interroger pour la suite, c'est quoi cet événement historique, ce moment historique qui voit la confluence de l'extrême gauche européenne et d'une partie de l'extrême droite. C'est quoi cette...
Pensez à qui ? Marine Le Pen, c'est ça ?
Par exemple, c'est quoi cette standing ovation là, au Parlement européen, dans laquelle on avait le discours de Tsipras, une partie de l'extrême gauche debout, une partie de l'extrême droite debout ? Ça, je trouve que ça doit nous interroger pour la suite. Et d'ailleurs, bon, c'est normal, on est dans urgence, on s'occupe de faire ce qu'il faut pour dans les discussions avec la Grèce. Mais cet événement, il doit aussi nous appeler à réfléchir à ce que c'est que l'Union européenne et probablement à une refondation de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, ça doit être un espace de solidarité, je le disais, mais aussi de responsabilité, de réciprocité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a une zone euro qui n'est pas une garantie ni de coordination des politiques économiques, ni même de convergence, tout simplement.
Euro fragilisé, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Eh bien écoutez, c'est pas... c'est quoi d'avoir une monnaie commune à l'intérieur de laquelle, en fait, les économies divergent durablement? On doit se poser la question de savoir pourquoi ça fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner durablement comme ça. Et c'est pas ça qu'on a voulu, en plus. Parce que l'Union européenne, ça doit être aussi, et ça doit redevenir, si ça, c'est, pour ce que ça n'est plus, un projet politique.
François Hollande a été à la hauteur de la crise, question?
Écoutez, j'ai trouvé qu'il n'avait pas une ligne et un discours très lisible. Et c'est dommage et c'est problématique, hein, dans un moment comme ça de grand trouble, on a besoin, on a envie d'avoir un président de la République dont on comprend le message, pour nous autres, les Français, et puis pour le monde, pour l'Union européenne, pour la négociation. Je prends deux exemples. Un jour, sur le perron de l'Élysée, il dit... si la Grèce sort de la zone euro, finalement, ce sera pas si grave. Et puis, 48 heures après, son Premier ministre explique qu'économiquement, même pour la France, ce serait une catastrophe. Pareil sur la question des conditions de discussion avec la Grèce. Quand il est avec Angela Merkel, il parle de responsabilité, de nécessité d'avoir des contreparties. Et puis après, on a Manuel Valls à l'Assemblée nationale qui nous dit qu'il faut à tout prix que la Grèce reste dans la zone euro. Tout ça, ça fait pas une ligne très claire. Et en période de trouble, on a envie que le président de la République donne une ligne claire.
Nicolas Sarkozy, lui aussi, a évolué. Hein. Il était très Grexit. Et puis, au fond, il a dit négociation, in fine. Donc, tout le monde évolue, finalement.
Il y a eu une position des Républicains qui a... le bénéfice d'avoir été écrit. Alors, ce qui est bien, c'est que les écrits, comme disait l'autre, ils restent. La position des Républicains, c'est que c'est mieux que la Grèce reste. On souhaite que la Grèce reste, mais ça se fait pas sans contrepartie, parce que c'est l'argent des contribuables français, parce que c'est une question de principe, et parce qu'il y a d'autres peuples européens qui eux aussi font des efforts.
Bon, et rendez-vous. Et
il faut les respecter.
Et rendez-vous
aussi
dimanche pour savoir ce qui va se produire. Oui. On n'y est pas encore. Autre feuilleton, plus hexagonal, celui-ci. Jean-Marie Le Pen, qui finalement réussit à damer le pion à sa propre fille par voie de justice. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Je ne sais pas si j'aurais pas un autre feuilleton. Je ne l'aurais pas mis sur le même plan.
Ouais, petit feuilleton.
Ça n'a rien à voir. Tout petit. C'est franchement, je trouve pas ça très intéressant. Pas envie de passer des heures à le commenter. Ce que ça m'a inspiré, pour tout vous dire, moi j'ai écrit un livre sur le Front National il y a quelques années. Je m'étais intéressée de près à l'histoire du Front National, des relations entre les uns et les autres, comment ça s'était construit, et beaucoup travaillé sur tout ça. Et j'avais été frappée à l'époque par la grande violence des propos, et pas seulement des propos, dans cette famille politique, on peut là vraiment parler de famille politique, on tenait à l'égard des autres, à l'égard de ceux qui étaient à l'extérieur de la famille, à l'égard de tous les autres, de l'autre. Et là, maintenant qu'ils se divisent, on voit bien que la violence, elle est inhérente à ce fonctionnement, puisque c'est entre eux qu'ils la retournent. Il y a une grande violence dans ces propos et dans toute cette manière de faire.
Vous allez signer la pétition Valeurs Actuelles, Denis Tillinac, touche pas à mon église, pour que les églises abandonnées ne soient pas transformées en mosquées. Votre président l'a signé, hein, Nicolas Sarkozy.
Non, je ne la signerai pas. Je vais vous dire pourquoi je ne la signerai pas. Moi, je pense que c'est une erreur de transformer les églises en mosquées. Ce serait une erreur, parce qu'en fait, ça se fait pas. Les seules choses qui se font, c'est quoi? C'est des prêts occasionnels. Et d'ailleurs, il faudrait pouvoir parler plus généralement du devenir de certaines églises dans des zones très très rurales qui sont plus utilisées, parce que c'est pas mieux quand une église devient une boîte de nuit ou un restaurant, hein. C'est le problème du devenir de lieux qui ont été consacrés et qui restent symboliques, forts dans la mémoire collective et qui représentent quelque chose d'important. Mais je signerai pas cette pétition, parce que je trouve que c'est comme un revival, un retour d'un sujet. On essaye de faire vivre, on essaye d'exciter autour de ce sujet qui n'existe pas vraiment. Le recteur de la mosquée de Paris a fait marche arrière tout de suite.
Il
a eu des explications qui ont été données ici.
Ouais.
C'est pas un sujet d'une immense actualité. C'est pas une question qui se pose tous les jours le matin aux Français. C'est pas vrai.
Le président l'a signé,
et donc pourquoi le faire revivre? Pourquoi aller chercher à cliver? Pourquoi aller chercher à en faire un sujet alors que ça n'en est pas vraiment un. J'ajoute une deuxième chose, c'est que, vous savez, c'est vrai que l'Église, ça a une dimension culturelle en France, mais je trouve que ça ne doit pas avoir seulement une dimension culturelle. En fait, parfois, on a envie de dire, mais tous ces gens qui nous parlent de civilisation à propos de l'Église, est-ce qu'ils rentrent vraiment dans les églises? Je vais vous faire une confidence, moi, je rentre dans les églises. Je pense que beaucoup de ceux qui ramènent la question de l'Église, de la religion à un projet de civilisation ont parfois oublié le message évangélique. Le message évangélique, il est fait d'universalisme, pas de nationalisme. Le message évangélique, il est fait de projection vers l'avenir, pas de passéisme.
D'accord. Dernière question, parce qu'on n'a pas plus le temps. Rapide, vous avez votre maillot de bain sur vous? Je dis ça parce que...
Vraiment, Jean-François qui dit, vous serez passé de sujet en sujet.
Ouais. Je reconnais que c'est un peu osé.
Des liens, là, mais particulièrement pourris ce matin, je dois vous dire. Pourri, ouais. Il est temps que vous reveniez en vacances.
Il faut que je parte en vacances. J'ai mon maillot dans ma valise, là.
On est content pour vous.
Vous allez vous baigner dans la Seine. C'est un débat à Paris, hein, ça. Apparemment, c'est pour 2024. Hein.
Écoutez, non, je ne recommande pas, d'ailleurs, parce que l'agence régionale.
L'agence régionale de santé. Il y a 10 ans.
Ouais. Alors, on comprend des choses. Non, l'agence régionale de santé ne le recommande pas. Jean-François Aquini. Oui. Je vais vous dire, j'ai vu cette promesse de Madame Hidalgo de dire qu'on allait se baigner dans la Seine dans quelques années. On peut aussi promettre de faire... Non mais c'est formidable, si ça pouvait se faire tant mieux. On peut aussi promettre de faire du water polo dans le canal Saint-Martin en 2050. Moi je pense que les politiques doivent s'engager sur ce qu'ils peuvent faire et sur des choses pour maintenant. Vous voyez, maintenant on a une urgence à Paris, c'est la pollution de l'air. Alors peut-être qu'on va arrêter de fuir le sujet de la pollution de l'air en parlant de la pollution de l'eau.
La maire de Paris est en conflit là-dessus avec
on a une urgence.
On va essayer de faire court parce qu'il y a
elles animent la scène médiatique, on l'a bien compris, mais il y a des choses à faire et des choses qui sont pas faites. Je vous prends un exemple très concret. Il y avait une écotaxe sur les poids lourds. On faisait payer les poids lourds. Oui, on faisait payer les poids lourds, y compris les poids lourds qui étaient sur le périphérique. Ce gouvernement l'a supprimé. Et puis alors là, la maire de Paris, la ministre de l'écologie, dans le même sac. Elles n'y seront pas heureuses ensemble.
Merci Nathalie Kosciusko-Morizet.